Chers amis, il est 19h. Je vous remercie de vous installer et nous allons procéder à l'appel.
Monsieur Pierre Mallet.
Présent.
Madame Marie-Christine Lamotte. Monsieur Jean-Yves Parronneau. Monsieur Christian Senet. Qui est par là? Monsieur Dominique Clavé. Madame Jeannette Delettré. Monsieur Frédéric Carrère, remplacé par monsieur Joël Mallet. Monsieur Jean-Marie Esquier, remplacé par madame Blanche Guéant-Dufault. Monsieur Guy Sibu. Monsieur Jean-Paul Alire, remplacé par madame Maëlys Etcheverry. Monsieur Jean-Pierre Allais. Monsieur Claude Coumat. Madame Catherine Demême. Madame Geneviève Darieusec. Monsieur Hervé Bayard donne pouvoir à monsieur Jean-Paul Gantier. Madame Muriel Croze. Monsieur Bertrand Tortigue. Madame Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Charles Daillot, absent, donne pouvoir à madame Eliane D'Arteiron. Madame Chantal Davidson. Monsieur Farid Eba. Donc madame Eliane D'Arteiron. Monsieur Antoine Vigneault-Tuquet donne pouvoir à monsieur Bruno Rouffiat. Madame Catherine Piquet. Monsieur Jean-Paul Gantier. Madame Catherine Dupuis-Ventrepol. Monsieur Gilles Chauvin, absent, donne pouvoir à monsieur Nicolas Tachon. Madame Chantal Couturier. Monsieur Bruno Rouffiat. Madame Chantal Planchenot. Monsieur Nicolas Tachon. Madame Stéphanie Chédad. Monsieur Thierry Socodia-Béer. Madame Pascale Houry, absente, donne pouvoir à monsieur Jean-Marie Badby. Monsieur Jean-Marie Badby. Madame Marina Bancon. Monsieur Renaud Laïtette. Madame Elisabeth Soulignac-Gerbeau, absente, donne pouvoir à monsieur Renaud Laïtette. Monsieur Didier Simon. Monsieur Julien Antunes. Madame Véronique Glaise. Monsieur Michel Garcia. Monsieur Jean-Paul Le Tyran. Madame Florence Thomas, absente, donne pouvoir à madame Geneviève Darieusec. Monsieur Jean-Louis Darieutor. Madame Régine Nellig. Monsieur Joël Bonnet. Madame Delphine Salambier. Monsieur Bernard Krosinski. Madame Marie Denis. Monsieur Olivier Boisse. Madame Laetitia Tachon. Monsieur Éric Messrich, absent. Madame Marilyn Rousseau, absente, et monsieur Denis Capdeviol.
Bien, je vous remercie. Le quorum est atteint. D'abord, je veux vous remercier. C'est vrai que ce conseil a été déplacé d'une journée un petit peu au dernier moment, et je vous remercie de votre compréhension et de votre présence ce soir. Normalement, c'est un conseil un petit peu léger, donc les amateurs de ballon rond pourront profiter de la soirée. Et pour le reste, je voulais simplement dire que aujourd'hui 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors mon voisin Pierre Mallet souffle, mais c'est bon, néanmoins, je veux saluer toutes les femmes ici présentes, élues. Et puis aussi toutes celles qui travaillent dans nos collectivités. Et puis dire très, très simplement que, voilà, je crois que ces moments sont importants, mais qu'en fait, tout ce qui est porté en ce jour du 8 mars, il faut le porter tout au long de l'année. Et je le dis régulièrement, mais parce que ça s'avère, c'est une réalité, il y a des messages voilà, qui viennent en vagues successives et de plus en plus successives actuellement, qui tendraient à vouloir remettre en cause des tas d'acquis. Et je crois qu'il faut que nous soyons particulièrement vigilants. Et je sais, dans cette assemblée, que l'on peut compter sur tous pour aller dans le sens, bonsoir, de la poursuite de la mise en œuvre de ces droits pour les femmes. Voilà ce que je voulais dire en préambule. le procès-verbal de notre conseil du 8 mars, du 8 mars, du 8 décembre, excusez-moi. Y a-t-il des choses qui auraient été mal retranscrites ? Pas d'observation sur ce procès-verbal ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Il est adopté. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions qui ont été prises entre le 6 décembre et le 23 février. Y a-t-il des questions ? Je ne vais pas lire tout ce qui... toutes ces décisions. Pas de questions particulières ? Je vous remercie. Bien, nous avons quelques délibérations importantes à propos d'aménagement. Et nous avons le premier point qui concerne l'avis sur la révision du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 118. Alors, vous savez que ce plan d'exposition au bruit est un document qui est annexé au PLU hein, des communes et qui sera annexé à notre PLUI en construction actuellement. Et que par courrier du 17 janvier 2017, faisant suite aux premières réunions de la commission consultative de l'environnement, Monsieur le préfet des Landes a informé notre agglomération de la mise en révision de ce plan d'exposition au bruit et surtout des décisions qu'il avait prises et de l'arrêté qu'il a pris, qui donc considère que la zone A d'une part et les zones B et C d'autre part sont définies par les indices Elden, les plus élevés réglementairement, couvrant la surface de protection plus importante que celle définie dans le PEB actuellement en vigueur, mais qui sont, voilà, je crois que les limites fixées par Monsieur le Préfet répondent à la réglementation et permettent d'une part, et permettent d'autre part, de pouvoir poursuivre le développement des 6 communes qui sont impactées par, à l'heure actuelle, ce plan d'exposition au bruit. Alors, je pense que vous avez tous lu ce document, bien sûr. Les 6 communes qui sont concernées ont toutes dû voter aussi, ont présenté la même délibération que celle que nous vous présentons aujourd'hui. Et je vous propose tout simplement d'émettre un avis favorable à ce projet de plan d'exposition au bruit que préconise Monsieur le Préfet. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Enfin, c'est un dossier très important pour notre territoire. Hein. Parce que les décisions de Monsieur le Préfet vont dans le bon sens, dans la mesure où, comme je l'ai dit, hein, elles répondent à la réglementation d'une part. Mais d'autre part, elles nous permettent quand même de poursuivre le développement de nos communes, ce qui n'était peut-être pas vu comme ça au départ ou qui aurait pu être une vraie difficulté s'il y avait eu des décisions différentes. Bien. Donc il n'y a pas d'avis contre. Pas d'abstention. Très bien. Nous aviserons Monsieur le Préfet que nous avons voté à l'unanimité sur son projet de plan d'exposition au bruit. Et je vous remercie. Deuxième dossier très important, il s'agit du débat sur le projet d'aménagement de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Je cède la parole à Pierre Mallet.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc le PADD qui va nous être présenté aujourd'hui et fait suite à la prescription du plan local d'urbanisme intercommunal que nous avons voté par délibération au 1er décembre 2015. Alors je ne vais pas être très long dans la présentation puisque ce PADD a été présenté à chacun des conseils municipaux. Je crois que quasiment tous les conseils, à part peut-être un, ce soir, je crois que le tour de toutes les collectivités quasiment. Non, il me reste un, enfin de mémoire. Voilà, donc ce PADD doit définir notamment les orientations générales en matière d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, avec bien sûr la préservation et la remise en état des continuités écologiques, ce que l'on appelle communément la trame verte et la trame bleue. Ces orientations générales concernent aussi l'habitat, les transports, les déplacements, enfin tout ce qui constitue notre environnement et tout ce qui a été retenu au niveau de ce PADD. Il fixe aussi les objectifs de consommation de l'espace et on doit lutter, puisque c'est des obligations aujourd'hui, contre l'étalement urbain et la consommation de foncier. Ce débat est un débat sans vote et il est obligatoire dans le cadre de la procédure de la mise en place de notre PLUI. Donc je vais passer la parole à M. Fenestre qui va nous présenter succinctement, bien sûr, ce PADD, puisque chacun l'a en mémoire. Si le micro marche.
Ah. Si, ça y est. Bonsoir à tous. Donc, en effet, je vais vous le présenter, ce PADD, assez rapidement, d'autant qu'il fait suite sur le territoire à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et que le PLUI, je dirais, est la traduction spatiale à la parcelle, quelque part, des grands principes qui ont été débattus et échangés ici même et traduits dans le cadre notamment du document d'orientation du SCOT. Donc ce PADD, il est organisé en trois grands axes qui répondent en fait aux attentes du législateur en matière de définition, à la fois sur le volet social, économique et environnemental, hein, qui sont les trois piliers du développement durable. Avec un premier axe qui est un peu plus fourni puisqu'il permet de cadrer tout ce qui est politique d'aménagement. Le second donc qui permet de cadrer plutôt tout ce qui concerne justement le développement des infrastructures économiques. Et le dernier, donc le volet environnemental. Ce document est relativement simple, hein. L'objectif, c'était d'avoir un document concis. Il sera rajouté un petit préambule sur les objectifs et les intentions générales du document un peu plus rédigé. Vous avez là par contre l'ensemble des objectifs qui sont pointés. Donc le premier évoqué par M. Mallet en introduction et notamment la réduction de la consommation foncière à des fins urbaines. C'est en effet un des points importants dans le cadre de l'élaboration de ce PLUI et le SCOT avait fixé un objectif de modération de l'ordre de 40% de la consommation foncière par rapport à la période 2004-2014. Donc c'est un des points forts et retraduit au niveau de ce projet d'aménagement et de développement durable. Donc ce qui a des incidences derrière sur la priorisation à donner au développement des territoires déjà urbanisés, de limiter l'étalement urbain et quelque part de se fixer aussi comme limite la rocade au niveau de l'agglomération Mont-de-Marsan-Saint-Pierre-du-Mont comme limite à ne pas franchir et donc de travailler à l'intérieur des espaces déjà bâtis. Deuxième objectif, c'est d'accroître aussi l'offre en logements sociaux, notamment à usage locatif. Donc là, on a plusieurs éléments qui sont à la fois introduits dans le schéma de cohérence territoriale et dans le PLH. Donc là, les deux documents doivent bien sûr être en lien. Donc déjà, construire et réhabiliter plus de logements à loyer modéré, créer entre 25 et 30% de logements sociaux dans le parc neuf ou réhabilité sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, et entre 10 et 15% pour les autres communes qui accueilleront au moins 5 logements par an. Donc là, c'est la reprise, hein, clairement, de ce qui est écrit au niveau du SCOT, puisqu'il était suffisamment précis pour constituer un canevas pour le PLUI. Et agir aussi sur les coûts du foncier, donc notamment à travers les orientations d'aménagement, on y reviendra. Autre objectif, aménager de manière qualitative les secteurs de renouvellement et d'extension donc des villes et villages, donc avec un premier point sur la mise en valeur des entrées de ville, qui est un point important pour l'agglomération, notamment sur les avenues Kennedy, Juin et Foch. De requalifier aussi les quartiers centraux de l'agglomération par de la réhabilitation et du changement d'usage éventuellement de certains îlots, notamment sur le centre-ville et les extensions immédiates. De renouveler les quartiers urbains pavillonnaires, donc avec des objectifs de densification que l'on verra avec vous sur les réunions de secteur. De favoriser aussi la rénovation urbaine, la mixité sociale et la résorption de la vacance et le traitement des friches urbaines qui sont voilà, des points importants qui avaient été évoqués, qui sont traités aussi dans le cadre du diagnostic préalable du PLUI, donc avec des enjeux de vacances notamment sur les parties centrale. Et ensuite, conforter l'offre en logement destinée aux populations spécifiques. Donc, c'est notamment le respect des principes évoqués sur l'accès au logement pour les personnes porteuses de handicap, sur les logements aussi pour les jeunes, notamment les étudiants, les apprentis, les élèves pour tout ce qui est formation et les personnes les plus défavorisées, donc à travers le logement d'urgence et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc qui seront aussi des points à traiter plus finement à des échelles parcellaires dans le cadre de la traduction réglementaire du projet. Autre élément en lien avec le développement démographique sur le territoire, donc on est sur une ville centre d'un territoire assez vaste, hein, avec aujourd'hui une aire de chalandise de l'ordre de 140 000 habitants et une aire urbaine liée au Marsan, donc de l'ordre de 70 000 habitants. Donc l'objectif, c'est bien sûr de continuer à développer et adapter l'offre en équipement de rang d'agglomération sur tout ce qui est enseignement, santé, loisirs, culture, commerce, services. Le champ est volontairement large pour permettre éventuellement de positionner des emplacements réservés, etc., dans le cadre de la traduction réglementaire ou d'avoir des zonages et des règlements spécifiques dans le cadre du PLUI. Veiller aussi à un maillage équilibré du territoire en matière d'équipement et de services, donc dans les communes et les différents niveaux de services des communes, et développer plus largement à tout le niveau d'équipement les réseaux, les communications numériques, l'assainissement et les services, en sachant que sur la politique d'assainissement, il y a des attentes assez fortes qui sont fixées aussi sur le volet environnemental du SCOT. En ce qui concerne ensuite les déplacements, donc on est sur une agglomération de taille moyenne, donc avec une place quand même assez forte aujourd'hui à l'automobile. Donc l'objectif, c'est aussi là de chercher à faire évoluer la situation en travaillant sur les transports en commun, sur les liaisons douces interquartiers, à la fois pour le piéton et le cycle, pour notamment fluidifier aussi la circulation au sein de l'agglomération et après plus largement à l'échelle des différentes communes, hein, ça va être de développer des maillages justement de circulation douce plus importants et développer l'intermodalité, veiller donc à pouvoir avoir une alternance des modes de déplacement entre la voiture individuelle, la marche, le vélo et les transports collectifs. Protéger aussi et valoriser les sites et paysages qui forgent l'image du territoire. Ce qui a été pointé, hein, et dans le SCOT et dans le diagnostic du PLUI, c'est quand même un enjeu lié à la banalisation de certains espaces avec des ensembles pavillonnaires, hein, qui ont un petit peu fait perdre l'identité patrimoniale, paysagère, architecturale. Donc il y a plusieurs points qui ont été évoqués comme la restauration des boisements de feuillus, des haies ou des lisières de secteurs forestiers, donc notamment indiqué en trame verte ou trame bleue du document PLUI en suivant. La préservation des milieux aquatiques et des zones humides, le fait de limiter aussi le fractionnement des milieux par les infrastructures linéaires, donc notamment routières. La préservation aussi plus large de la qualité des paysages des espaces périurbains, avec l'intégration d'espaces verts et de coulées vertes notamment, et tout ce qui est valorisation du patrimoine architectural urbain et paysager, et notamment avec la mise en valeur aussi des sites du parc naturel urbain, donc en cours de déploiement. Le deuxième grand axe de ce PLUI, donc sur le développement économique, premier point qui a été marqué, c'est la diversité, la volonté de diversifier l'activité économique et l'innovation. Donc là aussi, avec des champs assez larges, hein, qui sont pointés, l'objectif, c'est de ne pas se limiter dans les capacités d'évolution économique sur le territoire, sachant que le PLUI est une réflexion à 10 ans, donc il peut y avoir beaucoup de besoins d'adaptation, donc notamment sur toute l'innovation, avec les nouvelles technologies liées au numérique, le développement de la formation, l'adaptation aussi de l'offre foncière et le travail donc sur la biosécurité, donc un certain nombre de champs, hein, d'action déjà engagés par l'agglomération, avec un point qui sera évoqué sur le fait qu'on n'est pas forcément limitatif sur ces champs. Autre élément, donc optimiser les capacités d'accueil, améliorer la qualité urbaine et paysagère des sites d'accueil d'activité, donc notamment avec des zones d'activité qui sont quand même assez peu qualitatives, hein, sur lesquelles il y a des efforts à mener, sur notamment les entrées d'agglomération. Et une rationalisation du foncier à avoir, c'est-à-dire qu'on a des sites qui peuvent être clairement restructurés, réoccupés, mieux occupés qu'ils ne le sont aujourd'hui, et requalifiés aussi dans des sites anciens et les friches urbaines, qui sont souvent des sites assez bien placés et qui peuvent être attractifs pour des activités économiques. Soutenir aussi les productions agricoles, agroalimentaires et forestières, donc là aussi avec un certain nombre d'enjeux liés à tout le bassin de production qu'on a en périphérie immédiate de l'agglomération, et avec un enjeu sur la préservation des espaces agricoles et forestiers, notamment tous ceux qui sont à forte valeur ajoutée, pour pérenniser ces activités et la transformation associée, donc notamment toute l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, le très haut débit, donc faciliter le déploiement de la fibre optique. On peut aussi avoir des traductions au niveau réglementaire du PLUI. On le verra dans les prochains mois. En ce qui concerne ensuite les activités touristiques, là, l'objectif, c'est vraiment de laisser un champ assez large, hein, une possibilité d'avoir du développement touristique sur l'ensemble du territoire, donc à travers le développement notamment du tourisme vert, tout ce qui peut être hébergement, la notoriété aussi de l'agglomération pour bien l'identifier comme une destination touristique complémentaire de ce qui peut exister sur le département landais, et travailler aussi sur le développement des clientèles de niche, donc qui sont des points qui avaient été là aussi évoqués et qui doivent être traduits au niveau réglementaire et du document de zonage. Et ensuite, donc, renforcer les fonctions commerciales, récréatives et touristiques du cœur d'agglomération, donc notamment avec tout le pôle nature, culture, sport, festif, donc du cœur d'agglomération, et les événements aussi qui peuvent exister donc sur l'ensemble du territoire, donc en lien avec les éléments patrimoniaux, notamment du patrimoine naturel. Et favoriser le maintien de l'activité militaire, donc notamment, vous l'évoquez avec le plan d'exposition au bruit, hein, mais il y a en effet un enjeu fort, hein, qui est de continuer de maintenir cette base, hein, qui représente un très gros pourvoyeur d'emplois en activité directe et indirecte pour l'agglomération. Et le troisième et dernier thème de ce PADD, donc développer un territoire durable, donc notamment promouvoir les énergies renouvelables, donc là aussi avec une volonté, hein, au niveau du PADD de garder un champ assez large, hein, pour pouvoir travailler à la fois sur de l'énergie solaire, éolienne, géothermie, etc. Hein, pas forcément se fixer de limites. On peut avoir des nouveaux dispositifs, des nouveaux projets qui voient le jour dans les prochaines années. L'objectif étant de réduire l'utilisation des énergies fossiles et notamment la dépendance à d'autres territoires de production sur ce champ. Et contribuer aussi à la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre, notamment par tout ce qui est production de dioxyde de carbone, de micropolluants. Et on rejoint bien sûr sur ce champ-là tout ce qui est promotion des déplacements doux et notamment la réduction de l'usage des véhicules individuels. Autre enjeu assez large qui va être donc une traduction des dispositions du schéma régional de cohérence écologique et du SCOT dans le PLUI, donc la mise en œuvre et la préservation donc des ressources naturelles et de la préservation de la biodiversité, donc la déclinaison locale de la trame verte et bleue, donc qui va nous occuper quelques temps, hein, sur une déclinaison vraiment à l'échelle parcellaire, sur la réduction de la consommation des terres agricoles, qui est un enjeu très fort, et donc avec des enjeux, hein, qui vont être de rebasculer un certain nombre de secteurs potentiellement constructibles aujourd'hui en espaces agricoles ou naturels, d'assurer la protection et la sécurisation donc des points de captage d'eau potable, et tout ce qui est préservation ensuite de la ressource en eau, notamment assurer les débits d'étiage, le maintien aussi des espaces naturels aux abords immédiats des cours d'eau et la protection des ripisylves des cours d'eau, donc c'est les boisements aux abords immédiats des cours d'eau qui abritent une forte biodiversité. Et ensuite, donc la promotion plus large des énergies renouvelables aussi dans le bâti, donc qui avait été pointé un petit peu avant également.
Donc ça, préservation. Donc
juste avant, pardon, et intégrer ensuite la gestion des risques en veillant à la santé et à la sécurité publique, donc notamment la prise en compte des plans de prévention des risques, mais aussi de l'atlas des risques majeurs, donc avec là aussi une déclinaison à prendre en compte, notamment avec le risque inondation et tout ce qui est risque de mouvement et de tassement différentiel des argiles, donc qui concerne une partie importante du territoire. Donc voilà les grands éléments du projet d'aménagement et de développement durable. Il est volontairement simple, il répond à l'ensemble des attentes du code. L'objectif était surtout donc de pouvoir avoir un premier débat qui fasse, je dirais, la suite du SCOT pour après rentrer sur la phase de traduction réglementaire dans les deux à trois prochains mois avant l'été, de commencer à vraiment travailler sur la déclinaison des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement. Voilà pour les principaux éléments.
Bien, merci pour cette présentation. En effet, le PADD est connu. Et l'avantage qu'on a, c'est que le PLUI étant à la même échelle que notre SCOT, il est vrai que nous avions anticipé pas mal d'éléments sur ce dossier. Bien, donc maintenant, le débat est ouvert. Si vous avez des questions par rapport à ces orientations, quelles qu'elles soient, ou des remarques particulières, enfin, je crois que plusieurs ou pas mal d'entre vous ont pu en faire au niveau des présentations dans chaque conseil municipal. Mais enfin, si vous avez des remarques ou que c'est quelque chose... Oui, Thierry.
Oui, juste une petite précision à apporter. Nous ne développerons pas d'énergie éolienne sur le territoire. C'est incompatible avec l'activité de la base aérienne. Voilà.
Et ça tombe bien. Bien, y a-t-il des... Alors c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à tout ce que l'on a pu déjà avoir comme débat ou discussion au niveau de notre SCOT. Hein, donc ça reprend quand même complètement le cœur du SCOT, ce qui est normal. Donc il n'y a pas véritablement de choses très nouvelles. Sinon que bon, notre volonté est quand même de rentrer dans le cadre de tout ce qui est préservation environnementale, qui est quand même un cadre fort et surtout un cadre d'avenir, puisque je crois que c'est pas tellement les obligations qui pèsent sur nous, c'est surtout ce sont pas des obligations qui pèsent sur nous, ce sont surtout des véritables engagements que nous devons avoir, quoi. Et que nous devons avoir même de façon volontaire, en plus du cadre réglementaire. Bien, il n'y a pas de... Tout le monde a lu, puis ça a été discuté dans toutes les communes, donc, et présenté dans toutes les communes, donc il n'y a rien de très très nouveau. Donc comme c'est un débat, eh bien, s'il n'y a pas de questions, ni de, surtout de remarques particulières, en dehors de celle de Thierry qui était bienvenue, je vous propose d'arrêter là le débat, qui aura été court. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, je crois que ça fait l'unanimité de toute façon. Et nous avions déjà bien travaillé tous ces sujets en amont. Merci beaucoup. Je vous propose que nous poursuivions. Il s'agit de la prescription du règlement local de publicité intercommunale. Pierre Mallet.
Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est bien la preuve qu'on avait bien travaillé au niveau du SCOT. Oui. Bien, pour cette délibération, prescription donc du règlement local de publicité intercommunale, mais en fait, c'est un règlement qui est directement lié à notre PLUI, puisque c'est un outil de planification de l'affichage publicitaire sur le territoire intercommunal. Donc il répond à plusieurs objectifs. Alors c'est vrai que ce règlement concerne, je dirais, plus directement la partie urbaine de notre agglomération, puisque à ce jour, je crois que Mont-de-Marsan et Saint-Pierre ont des règlements par rapport à cette publicité. Mais ce règlement de publicité intercommunale s'appliquera sur l'intégralité de notre territoire et nous permettra notamment de réglementer et d'améliorer plusieurs paramètres, notamment protéger le cadre de vie, aménager de manière qualitative les secteurs en renouvellement, les entrées de ville, pour ce qui est de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont, mais aussi nos entrées de village, protéger et valoriser des sites et des paysages remarquables qui font l'image de notre territoire, renforcer les fonctions commerciales, récréatives et touristiques du cœur d'agglomération, prioriser le cœur commercial de Mont-de-Marsan, prévenir des nuisances visuelles. Le RP poursuit d'autres objectifs, à savoir mettre en cohérence le traitement de la publicité sur l'ensemble du territoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, assurer une qualité et une régularité sur tout le territoire. Aujourd'hui, chaque commune, donc c'est Mont-de-Marsan et Saint-Pierre, ont chacune leur propre règlement. Il deviendra communautaire. Et la conférence des maires qui a été réunie le 21 février 2017 a prescrit une démarche qui va se coordonner avec le PLUI, c'est-à-dire que nous devons, dans le même cas de figure, pouvoir porter à connaissance, pouvoir prendre aussi les remarques de la population. Et donc, les deux documents vont se suivre conjointement, ce qui nous permettra, lorsque le PLUI sera opposable, d'avoir ce règlement qui sera aussi applicable sur l'ensemble du territoire quand le PLUI sera arrêté. Alors, ce règlement, cette délibération a aussi un autre objet qui est un peu plus intéressé, je dirais. L'État a fait un appel à projet pour soutenir l'élaboration de règlements locaux de publicité intercommunaux. Une enveloppe de 10 000 euros pourrait être attribuée à une vingtaine de projets. Et donc, nous avons candidaté au niveau de l'Adréal pour éventuellement prétendre à cette subvention. Il vous est donc proposé de prescrire l'élaboration de ce règlement local de publicité intercommunale et d'approuver les objectifs poursuivis et de fixer les modalités de concertation telles que présentées. Voilà, Madame la Présidente.
Y a-t-il des questions ? Là aussi, bon, ça a été travaillé avec tous les maires, donc... Et tout le monde était d'accord pour mettre en œuvre ce règlement intercommunal. Donc, pas d'avis contre, pas d'abstention. Je vous remercie. J'espère que ça va permettre aussi de réguler un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que ce sont des nuisances visuelles quand ça dépasse un certain cadre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'adoption du programme local de l'habitat 2017-2022. Alors, il s'agit de l'adoption finale. Nous avons déjà voté à plusieurs reprises sur ce PLH. Donc là aussi, ce ne sera pas très long parce que vous connaissez bien le sujet. Je vais donner la parole à Muriel Croze.
Merci, Madame la Présidente. Oui, effectivement, c'est la troisième délibération et la dernière, puisqu'on avait eu cette première pour le lancement, la deuxième pour les consultations et les avis des 18 communes. Et cette troisième, après donc être passée dans une instance obligatoire, hein, qui est la commission planification du comité régional d'hébergement et de l'habitat, donc le 8 décembre, qui a donné un avis tout à fait favorable à ce PLH, mais qui a toutefois donné une réserve qui concerne les objectifs de production de logements locatifs sur la commune de Mont-de-Marsan, dont les objectifs chiffrés inscrits dans le PLH étaient inférieurs aux objectifs légaux de rattrapage du déficit en logements sociaux. Voilà. Alors, on n'a pas essayé de faire passer ça comme ça. C'est tout simplement des chiffres qui ont été donnés et qui n'étaient pas les bons, tout simplement. Donc, il est bien évidemment proposé d'augmenter ces objectifs de production de logements sociaux sur la commune de Mont-de-Marsan et de passer donc de 55 logements à 65 logements par an, ce qui représente 390 logements à produire sur la commune pendant la période donc du programme local pour l'habitat. Voilà, donc il vous est demandé d'adopter définitivement le plan local de l'habitat.
Avec cet ajout ou cette modification.
Oui.
Bien, là aussi, y a-t-il des questions ou des commentaires ? Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Bien, alors y a-t-il des avis contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Et c'est terminé, là, les délibérations pour le PLH.
Oui, là,
je trouve que c'est
oui.
Très, très lourd, tous ces documents.
Oui, oui.
Il faut que nous délibérions 3 fois, 4 fois. Si on pouvait nous alléger un petit peu toutes ces procédures, je pense que nous gagnerions en efficacité aussi. Bien.
Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce passage a au moins été l'occasion d'entendre que le travail qui a été fait a été un bon travail. Notre document a intéressés. Il y a eu des questions, mais des questions pas du tout pièges. Hein, et on a eu vraiment les félicitations du jury hein, pour tout le travail qui a été fait. Et merci d'ailleurs. Technique d'avoir réalisé ce gros travail.
C'est vrai. Merci au service technique, à Valérie Pollier en particulier, qui a travaillé sur ce sujet. Bien. Donc ça y est, nous sommes dans les clous pour ce dossier stratégique concernant l'habitat. Nous allons passer maintenant au pôle développement. Alors, le parc d'activité Mamoura, cession de terrain à la société Réseau Evoludis France. Pierre Mallet.
Alors, le cabinet Evoludis est une société de conseil pour les agriculteurs, mais aussi les artisans, commerçants et professions libérales. Le directeur général, dans sa stratégie de développement, souhaite construire le siège sur le territoire de l'agglomération. Et donc, il s'est positionné sur Mamoura et a retenu le lot 2B de 4510 mètres carrés. Ce lot qui lui sera vendu à 28 euros hors taxe le mètre carré. Bien sûr, la commission de développement économique a donné un avis favorable. Et j'espère que vous aussi, vous donnerez un avis favorable.
Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité et cela va rassurer Pierre Mallet. La délibération suivante concerne la participation au financement de la construction d'une halle technologique très haut débit sur le site montois de l'IUT des Pays de la Dour. Pierre Mallet.
Merci Madame la Présidente. Donc Mont-de-Marsan, depuis plusieurs années, favorise et intensifie le développement des formations supérieures et notamment avec l'IUT. Dans le cadre du projet de construction de cette halle technologique très haut débit, nous avons été sollicités pour participer au financement. Donc, comme pour les précédents investissements, plusieurs financeurs, l'État. Alors le projet est chiffré à 1 462 150,48 euros TTC. L'État à hauteur de 400 000 euros, la région 400 000 euros, le département 300 299 32, Mont-de-Marsan agglomération 122 000 et le FCTVA 239 851,16 euros. L'UPPA financera les équipements qui équiperont cette halle technologique. Je vous ai donc proposé de valider cette participation financière pour la construction de l'halle très haut débit pour un montant de 122 000 euros pour notre agglomération.
Bien, y a-t-il des questions? Alors, il s'agit toujours de notre soutien à l'enseignement supérieur sur notre territoire. Je crois que nous avions inscrit une somme, d'ailleurs, dès 2016, sur le budget 2016, et ce sera réglé sur trois exercices. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Passons au tourisme. Avenant à la convention de partenariat des Landes intérieures, Joël Bonnet.
Oui, merci Madame la Présidente. Simplement pour rappel, nous avions déjà voté dans cette Assemblée la convention de partenariat de Landes intérieures que nous avions signée avec la région et les deux autres communautés d'agglomération qui sont Cap de Gascogne et les Pays grenadois en 2015, suite à un appel à projet de la région concernant l'organisation et le développement touristique des territoires. Vous avez joint à votre dossier la convention qui a été signée. Il s'agit là tout simplement du fait de la modification du territoire Cap de Gascogne à compter du 1er janvier 2017 et du fait des regroupements des trois communautés d'agglomération, la nouvelle communauté qui s'appelle Chalosse-Tursan. Donc cet avenant a pour but de modifier la convention et de faire apparaître la nouvelle communauté d'agglomération Chalosse-Tursan en lieu et place de la communauté Cap de Gascogne, tout simplement.
Bien. Donc ça, de toute façon, c'est pas très compliqué. Mais à l'arrivée, ça donne quand même un intérêt supplémentaire à ce dossier, qui est quand même un dossier intéressant de travail en commun de collectivités différentes qui représentent un territoire intéressant, hein, les Landes intérieures, et sur le plan touristique en tout cas. Et c'est vrai que d'élargir le territoire est aussi intéressant pour l'objet de ce dossier. Et d'ailleurs, il y a eu hier un comité de pilotage. Alors j'étais absente parce que je n'étais pas sur Mont-de-Marsan, mais Joël Bonnet a participé à ce comité de pilotage pour mettre en œuvre les actions. Tu veux en dire un mot, Joël ?
C'était le premier comité de pilotage qui a été mis en place, puisque l'année 2016 a été surtout une année d'organisation et notamment du recrutement de la coordinatrice de cet appel à projet. Donc, avec la nouvelle vice-présidente en charge du tourisme de la région, où l'ensemble des actions qui avaient été actées lors de l'appel à projet ont été validées. Et ce d'autant plus que cela engendre une participation de subvention de la part de la région en fonction des différentes actions qui peut aller, cette intervention peut aller de 30 à 80% en fonction des différentes actions.
Bon, et puis je trouve l'élan de...
Les Landes intérieures prennent tout leur sens avec l'élargissement de la communauté Chalosse-Tursan. On est véritablement dans la dénomination des Landes intérieures.
Oui, puis j'aime bien ce qui a été choisi. Les Landes, le meilleur est à l'intérieur. C'est beau, non ?
C'est souvent comme ça.
Ah oui, c'est souvent comme ça. Mais là, en l'occurrence, voilà. Très bien. Donc sur cet avenant à la Convention, pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Une demande de renouvellement de classement de l'Office de tourisme, commerce et de l'artisanat, Joël Bonnet.
Oui, là nous sommes dans le cadre du... je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions obtenu le classement de l'Office du tourisme en première catégorie en date du changement de l'Office du tourisme qui est devenu l'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat. Il y a nécessité de redéposer un dossier pour la classification première catégorie. C'est une mesure de sécurité. Nous aurions pu éventuellement nous en dispenser, mais n'ayant pas la certitude et la garantie que le fait d'être devenu OTCA nous permette de conserver cette classification de première catégorie, il est plus prudent de déposer un nouveau dossier.
Bien. Merci, Joël. En plus, je viens de me dire qu'il ne fallait plus délibérer, parce qu'il y a des simplifications qui arrivent au compte-gouttes. Mais c'est bien qu'on en parle aussi au niveau de notre collectivité, qui soutient beaucoup l'Office de tourisme et de commerce, par une subvention importante tous les ans, parce que nous souhaitons continuer à promouvoir le développement touristique sur ce territoire. Et c'est vrai que le fait que cet office de tourisme soit office de tourisme en première catégorie est essentiel, notamment essentiel, par exemple, dans le dossier dont on vient de parler tout à l'heure, puisqu'il ne pouvait être, ces dossiers avec la région ne pouvaient être réalisés que par des offices de tourisme de première catégorie. On vient en appui aussi donc aux autres offices de tourisme autour de notre territoire. Donc on n'a pas besoin de délibérer, mais on n'a pas besoin de voter en définitive, mais c'était intéressant de le porter.
Oui, c'était effectivement l'intérêt, c'est que le fait qu'on soit OTCA première catégorie permettait aux deux autres territoires de pouvoir bénéficier de l'appel à projet auquel elles n'auraient pas pu prétendre dans la mesure où elles n'avaient pas de classification.
Bien, donc pas de vote, mais un avis. Les délibérations suivantes. Alors, mise à disposition de l'actif et du passif Non, j'en oublie une. Excusez-moi, je suis passée trop vite et je l'ai mise où ? Il s'agit de subventions à... ah si, je l'ai là. Excusez-moi. Il s'agit de l'attribution de subventions à l'Association Montoise d'Animation Culturelle, AMAC. Deux subventions. Une subvention de 38 200 euros de subvention de fonctionnement et 93 000 euros de subvention correspondant à la mise à disposition de personnel. Donc il s'agit simplement de subventions de fonctionnement données à cette association qui remplit ses missions au niveau du café musique, autour des musiques amplifiées et de toutes les activités qu'elle met en œuvre tout au long de l'année. Ces sommes-là étaient des sommes qui étaient données par la commune de Mont-de-Marsan jusque-là. Puisque nous avons la compétence sur cet équipement maintenant, c'est donc l'agglomération qui va donner ses subventions et mettre à disposition les agents qui sont passés dans la, qui ont changé de collectivité avec la prise de compétence. Mais toutes ces sommes-là, bien entendu, font partie de la CLECT et ont été transférées par la commune de Mont-de-Marsan. Il y a la dépense, mais il y a la recette qui est là également en provenance de la commune de Mont-de-Marsan. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité et les musiques amplifiées vont continuer à se développer pour la jeunesse et pour les moins jeunes aussi d'ailleurs sur ce territoire. Ensuite, nous avons une mise à disposition de l'actif et du passif dans le cadre de l'extension donc, de l'intérêt communautaire de la compétence équipement culturel et sportif. Il s'agit donc toujours du café musique. Donc la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la compétence est matérialisée par la signature d'un procès-verbal établi entre la commune de Mont-de-Marsan et la communauté d'agglomération qui précise la consistance, la situation juridique et l'état de ces derniers... de la commune et il convient de procéder à la mise à disposition comptable de ces biens. Donc c'est une nécessité de mise à jour comptable des patrimoines de la commune, de la communauté d'agglomération sous le contrôle du comptable public. Rien de particulier, hein, c'est des inscriptions comptables. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Une petite décision modificative qui concerne le budget annexe zone d'activité. Pierre Mallet.
Oui, merci, Madame la Présidente. Cette délibération est juste une régularisation comptable. Lorsqu'un acquéreur achète un terrain sur une zone d'activité, lors de la réservation, il verse un pourcentage. Ce pourcentage doit comptablement lui être reversé. Mais en fait, voilà, c'est juste une régularisation comptable. En fait, il verse la soulte, mais comptablement, on est obligé de le reverser et il verse la totalité comptablement. C'est une écriture, régularisation.
Bien. Pas d'avis contre, j'espère. Sinon, on écrira au trésorier. Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La mise à disposition de biens dans le cadre de l'exercice de la compétence obligatoire en matière politique de la ville, une modification. Muriel Croze, va en dire un mot.
Merci. Donc oui, c'est une délibération assez simple puisque la ville de Mont-de-Marsan avait mis à disposition à la communauté d'agglomération pour l'exercice de sa compétence politique de la ville, une compétence qui est obligatoire. Des biens communaux, par procès-verbal, en avril 2015. Cette mise à disposition comprenait à la fois des biens mobiliers et des biens immobiliers. Donc ce service politique de la ville a été relocalisé au siège de la communauté d'agglomération depuis quelques jours. Le déménagement est terminé. Donc dès lors, la mise à disposition du bâtiment Quai Silgui, puisque auparavant ils étaient au Quai Silgui, n'aura plus lieu d'être et les biens mobiliers continueront quant à eux d'être mis à disposition. Donc il est donc demandé au conseil communautaire d'approuver la fin de la mise à disposition du bâtiment Kessilgui à compter du 31 mars 2017. Et donc la ville en reprendra l'entière gestion en sa qualité de propriétaire.
Bien. Pas d'avis contre. Pas d'abstention. C'est technique. Nous devons désigner des représentants au sein de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Alors, c'est essentiellement pour notre agglomération, pour l'accessibilité dans les transports, où nous serons appelés dans cette commission. Il nous faut un titulaire et un suppléant. Alors, je ne vais pas faire appel. Bertrand Tortigue est volontaire pour être titulaire. Voilà, sous les applaudissements de la foule. Et Bernard Kruzinski, il est volontaire pour être suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures sur cette sous-commission importante? Il n'y a pas d'autres candidatures. Nous pouvons voter à main levée. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? Bravo pour cette désignation à l'unanimité. Je sens une certaine... Dès qu'il y a des désignations, je vois que tout le monde se regarde les chaussures. N'a pas dû... Tout le monde a bien assez de travail et voilà. Mais bon. Bien, je vous remercie en tout cas. Merci Bertrand et merci Bernard. Autre sujet. La protection fonctionnelle accordée à un agent, la délibération 14. Bon, il s'agit d'un agent qui demande à juste titre une protection fonctionnelle. C'est un agent qui a subi une agression physique et verbale en novembre 2016, un agent des écoles. Et bon, voilà, il y a une... Vous savez comment ça se passe, hein. C'est l'agent qui doit porter plainte de façon personnelle. Et elle demande à juste titre, c'est notre mission aussi, de l'accompagner, enfin de l'accompagner sur le plan protection juridique, afin de lui fournir un avocat pour afin qu'elle puisse se défendre. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. L'adhésion à l'association Adulact dans le cadre de la procédure de dématérialisation des assemblées délibérantes. Avenant numéro 1. Alors Frédéric Carrère n'est pas là. Bon, je vais essayer de synthétiser. Nous avons donc en octobre 2016 approuvé cette adhésion pour un montant annuel de 800 euros. Il s'agissait initialement d'une adhésion commune entre Mont-de-Marsan, le CIAS, l'agglomération, la ville, le CIAS et le CCAS, et la ville de Saint-Pierre-du-Mont. La convention initiale présentait une cotisation globale annuelle d'une valeur de 4 000 euros à répartir entre les 5 structures. L'adhésion au CCAS au dispositif de dématérialisation ne sembla pas opportune à l'heure actuelle, au regard du nombre limité d'administrateurs et de la composition paritaire du conseil d'administration, le CCAS n'a pas souhaité poursuivre dans cette voie. De ce fait, le montant de la cotisation annuelle par entité adhérente s'en trouve modifié. Et donc, la cotisation annuelle s'élève à 3 900 euros proratisés à l'échelle des 4 structures, soit 975 euros pour la communauté d'agglomération. Voilà. On a déjà voté 10 fois sur ce dossier, donc et en fait, contrairement à ce qui a été dit par un des, alors je sais pas si c'est un des conseillers, ça fonctionne. et qui disait que ça fonctionnait pas, c'est son matériel qui n'était pas adapté. Et voilà, et ça va être mis en œuvre pour tous les élus qui souhaiteront avoir la dématérialisation de leurs conseils. Donc, y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Ah, pardon. Contre, oui. Pour être en cohérence, donc un avis contre. C'est adopté à la majorité et une voix contre pour Renaud Laïtet. Deux, pardon, il a un pouvoir. Deux. Les missions, nous terminons là. Les deux dernières délibérations concernent les ressources humaines. Les missions du centre de gestion dans le cadre d'une affiliation volontaire de notre agglomération. Pierre Mallet.
Mont-de-Marsan Agglomération a opté pour sa filiation volontaire au centre de gestion de la fonction publique depuis le 1er juillet 2015. En effet, à cette date, l'agglomération a franchi le seuil des 350 agents dans le cadre des transferts de compétences et de mutualisation. Il est rappelé d'ailleurs que la filiation est obligatoire pour les communes EPCI inférieures à 350 agents et elle est volontaire pour les autres collectivités territoriales et établissements publics locaux. Dans ce contexte, la communauté a quand même fait le choix d'abord de se désaffilier pour certaines missions, a créé une CAP, mais a décidé de contractualiser avec le centre de gestion, puisque nous continuons quand même à travailler, je dirais, en partenariat avec eux, sur certaines missions, de façon volontariste. Alors je vais vous faire grâce peut-être de vous lire l'annexe, à moins que vous vouliez que je la lise intégralement, mais je pense que tout le monde l'a lu. Il y a plusieurs missions qui sont précisées, les missions obligatoires dans le cadre de l'affiliation volontaire, les missions facultatives non prises en charge, les missions devant faire l'objet d'avenants spécifiques et les missions spécifiques conçues pour répondre aux besoins particuliers et propres à Mont-de-Marsan Agglomération. Voilà, un comité de pilotage sera d'ailleurs mis en place pour le suivi de cette convention. Vous précisez que cette convention, qui a commencé au 1er juillet 2015, est pour une durée de 6 ans et qu'elle sera établie sur un financement avec une cotisation annuelle à hauteur de 1% de la masse salariale. Voilà, ce taux reste inchangé jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2021.
Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Dernière délibération, il s'agit de la mise à jour du tableau des emplois et des effectifs. Pierre Mallet.
Cette délibération pour répondre à un personnel qui a réussi son concours de rédacteur. Et donc vous avez aussi en annexe le tableau de mise à jour pour que la personne puisse, je dirais, intégrer ce nouveau poste.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Eh bien, nous avons terminé notre ordre du jour. Je vous avais dit que ce serait rapide parce qu'il y avait beaucoup de délibérations qui étaient purement techniques. Je vous remercie de votre participation, en tout cas. Mais même technique, il faut les voter. Et donc, voilà. Donc, merci beaucoup de votre participation. Et à très bientôt, au mois d'avril, pour le prochain Conseil communautaire.